Merci. Dans un instant, Nathalie Arthaud, invitée de France Inter. Il est 7h42.
Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen.
Et dans notre boîte à archives présidentielles, l'apparition d'une femme, la première, c'était lors de la campagne officielle de 1974.
Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée. Je ne suis pas un homme politique professionnel.
Arlette Laguiller qui débute alors la première de ses 6 campagnes présidentielles et qui annonce déjà la couleur pour le second tour.
Femmes, mes sœurs, travailleurs, mes frères, au deuxième tour, nous n'aurons malheureusement que le choix entre un homme de la droite, Giscard ou Chaban et Mitterrand. Car c'est cela le choix électoral. Choisir entre de vrais hommes de droite et un faux homme de gauche.
21 ans et 3 septennats plus tard, même candidate, même discours en 1995 au Zénith de Paris.
Pas plus Jospin que les deux hommes de droite, tous les trois, ils sont à plat ventre devant le grand patronat, devant les riches.
7 ans plus tard, 2002, c'est là qu'Arlette Laguiller obtient son meilleur score, 5,7%, 1 600 000 voix. Mais là encore, au soir du 21 avril, la candidate de Lutte ouvrière refuse de choisir.
Nous n'appellerons pas à voter Chirac. Nous voulons combattre Le Pen, mais il ne peut se combattre que sur le plan social et par d'autres moyens que ceux qu'ont proposés Chirac ou Jospin.
Arlette Laguiller, toujours là, qui a ouvert le meeting de Nathalie Arthaud hier au Zénith de Paris.
Élection présidentielle, premier tour, J-6. Le prochain président de la République vous répond sur France Inter.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous êtes l'invitée de France Inter jusqu'à 9h. Votre état d'esprit à J-6, à 6 jours maintenant du premier tour.
Eh bien enthousiaste, voilà. Envie de convaincre.
Bon, Pascal Clark se pose des questions sur vous. Elle les exprimera dans 5 minutes. D'abord l'édito politique. Bonjour Thomas Legrand.
Bonjour Patrick.
Et donc ce matin, Nathalie Arthaud.
Oui, et l'on se demande d'abord pourquoi Nathalie Arthaud n'est pas avec Philippe Poutou, politiquement, on s'entend. Ou pourquoi n'est-il pas avec elle? Ou pourquoi ne sont-ils pas tous les deux avec Jean-Luc Mélenchon? Il n'y a en France que quelques milliers de militants et quelques centaines de spécialistes qui connaissent les raisons politiques, historiques ou simplement d'appareil qui expliquent que des organisations finalement si proches qui prônent une action radicale à la gauche de la gauche, donnant la primauté aux luttes sociales par rapport aux élections, ne puissent pas se présenter unis à la présidentielle. Lutte ouvrière revendique toujours l'étiquette communiste, le NPA n'en fait plus un élément essentiel de son identité. Voilà la raison politique invoquée pour expliquer la différence. Le NPA est plus sensible aux questions de société, défense des sans-papiers, lutte contre le mal-logement, l'esprit et le ton de Philippe Poutou est plus libertaire que celui de Nathalie Arthaud, plus charpenté idéologiquement, plus dur aussi. Lutte ouvrière préfère l'ancrage dans le monde économique et se concentre sur les luttes sociales, mais au fond, ces distinctions ne justifient pas que les candidats divisent par deux un potentiel électoral qui plafonne aujourd'hui à 1,5-2%. Ou alors, et ce n'est pas du tout le résultat électoral qui les intéresse, mais l'exposition médiatique et égalité du temps de parole oblige, le fait d'être divisé multiplie par deux la diffusion d'un message assez similaire. Je ne pense pas que ce soit le but de départ, mais en tout cas, c'est le résultat à l'arrivée.
Pourquoi les candidatures de Nathalie Arthaud et de Philippe Poutou ont-elles si peu d'audience par rapport aux élections précédentes?
Eh bien, la difficulté de succéder à Olivier Besancenot ou Arlette Laguiller, dont chacun connaît le talent et la popularité, n'est pas une explication suffisante. Il y a des raisons plus politiques. En période de crise grave, d'incertitude majeure sur l'avenir de notre modèle social, tout se passe comme si l'électorat de la gauche radicale aspirait moins à renverser la table et à changer le système qu'à consolider le modèle sur des bases plus sociales ou plus égalitaires. Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche réveillent cette gauche, une gauche très républicaine, attachée à la laïcité. Vive la République sociale! Voilà comment Mélenchon concluait son discours de samedi à Marseille. Et sa radicalité s'exprime dans le cadre des institutions qu'il entend modifier, mais pas renverser. Il brandit avec le drapeau rouge le drapeau tricolore et fait chanter la Marseillaise à ses supporters. Pour lui, les urnes comptent autant que les luttes, et c'est par la loi avec la pression de la rue s'il le faut, comme en 36, mais par la loi républicaine que le Front de Gauche veut opérer sa révolution. Paradoxalement, le contexte économique et social très lourd laisse peu de place à l'extrême gauche révolutionnaire.
C'était Thomas Legrand. Un commentaire, Nathalie Arthaud?
Oh bien écoutez, c'est tout simple. Hein. En ce qui concerne nos candidatures séparées de Philippe Poutou et de moi-même, c'est simplement que nous sommes contre le parti unique, voilà, à l'extrême gauche, et que nous considérons que nous avons des différences, que nous sommes des deux courants donc, qui portent effectivement des convictions, y compris différentes. Et ce n'est pas un détail. Nous sommes effectivement, nous réclamons du communisme révolutionnaire. Et nous trouvons tout à fait normal de pouvoir chacun défendre toute notre politique et rien que notre politique. Voilà, c'est la démocratie. Et oui, on ajoutera nos scores, voilà, je pense. Et on dira, c'est le score de l'extrême gauche.
On fera l'addition. On vous retrouve dans un peu plus de 2 minutes après l'économie, la chronique de Philippe Lefébure.
France Inter. Le 7-9.
Bonjour Pascal Clark.
Bonjour Patrick.
Face à vous, Nathalie Arthaud.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous avez fait le Zénith hier à Paris devant 4000 personnes et devant Arlette Laguiller. C'était impressionnant?
C'était chaleureux, c'est regonflant, c'est un moment fort, un moment où on est quand même porté, voilà, où on se retrouve à avoir les mêmes idées, la même envie, la même révolte, voilà, de changer les choses.
Regonflé, vous en aviez besoin?
Oh, mais ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien de se retrouver, effectivement, voilà, avec... on était 4000, c'est pas rien. Moi, j'espère, effectivement, que tous ceux qui partagent ces idées, et puis qui ont encore ces idéaux, ce rêve de transformer la société, de changer complètement, de fond en comble, cette société capitaliste, d'aller vers une organisation communiste de la société, j'espère que tous ceux-là iront voter pour ma candidature le 22, donc... Oui, c'est un moment important.
Vous n'étiez pas diffusé en direct à la télé, il y avait légère concurrence, mais vous étiez en différé, plus tard, donc sur la chaîne LCP, et au bout de 23 minutes de discours, vous avez comparé Nicolas Sarkozy au capitaine du Costa Concordia.
Le capitaine du Costa Concordia, qui a dirigé un bateau de croisière sur les rochers pour, paraît-il, briller de 1000 feux depuis le village voisin, n'était peut-être pas plus compétent dans son domaine, mais au moins... Il est aujourd'hui terré dans son village où il attend son procès et il ne postule pas à nouveau à un poste de commandement.
Pour mener le parallèle jusqu'au bout, ça veut dire que vous pensez que Nicolas Sarkozy devrait aller en prison? Ou c'est juste une formule de campagne?
Oui, c'est une formule de campagne.
Ah, faut pas croire tout ce que vous dites.
Vous savez, c'est surtout effectivement dénoncer la posture que Nicolas Sarkozy prend quand il nous explique qu'il est le sauveur, qui va nous protéger de cette crise financière, de cet échouage économique, parce que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et là, depuis que la crise a éclaté, ce que l'on voit, c'est que Nicolas Sarkozy, mais en réalité tous les dirigeants politiques, d'Obama à Merkel, ne maîtrisent absolument rien.
Mais vous ne voulez pas les envoyer en prison tous, là, Merkel, Obama,
mais non,
Sarkozy.
Mais attendez, c'est pas une question de prison. C'est une question que voilà, ils maîtrisent rien. Ils nous font croire que ils sont à la barre. Qui sont les capitaines. Bon, la réalité, c'est qu'on est dans une économie complètement ivre. C'est un bateau ivre, cette économie, une maison de fous. Et voilà, qu'il faut la changer de toute urgence, pas accepter cette spéculation, pas accepter tous ces capitalistes-là qui font tout et n'importe quoi avec leurs capitaux et qui nous mènent dans le mur. Voilà, c'est simplement... C'était ça l'idée, le raisonnement.
Nathalie Arthaud, votre campagne tranche dans le vif, c'est à coup de marteau. Vous parlez d'interdiction, d'emprisonnement. Il n'y a pas de place du tout pour la tendresse dans votre discours.
Oh si, si, justement...
On l'entend pas.
Ah, mais vous pourriez faire passer des petits passages, justement, sur l'avenir que nous envisageons d'une société beaucoup plus libre, beaucoup plus démocratique, où justement, les moyens de production, répondraient aux besoins de toute l'humanité.
Mais la tendresse, permettra...
C'est ça la tendresse, vous voyez, c'est militer pour que l'accès à la culture, l'accès aux biens élémentaires, l'accès aux loisirs, soit généralisé, soit pour tous. Vous voyez, tout ça, c'est des perspectives, je crois, qui sont devant nous et que nous défendons. Maintenant, pour en revenir à l'interdiction, pour en revenir aux sanctions...
À l'emprisonnement.
Oui, et à l'emprisonnement. Mais écoutez, dans la société, ça vous savez, on fait des reportages à longueur de journée pour expliquer que les petits délinquants, il faudrait être beaucoup plus dur avec eux, qu'il faudrait les envoyer en prison, et que d'ailleurs, la perpétuité, ça suffit pas. Enfin bon, vous voyez, tout ça, c'est du matin jusqu'au soir. Alors, moi, je vois pas pourquoi... vis-à-vis de ceux qui ont cette puissance financière et qui l'utilisent contre l'intérêt de la population et qui sont en fait des criminels sociaux, pourquoi effectivement on refuse des sanctions, pourquoi on refuse de leur mettre des interdits, de leur mettre des barrières? Je ne comprends pas cela. Donc oui, moi je dis interdiction. Vous savez, tous les autres dirigeants politiques expliquent qu'au contraire, les patrons, il faut les séduire, il faut les aider, il faut les convaincre. Ben écoutez, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc effectivement, il faut que les travailleurs fassent valoir leurs intérêts.
Vous aimeriez être riche?
Ah non, c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir une vie bien riche, une vie riche, mais riche de rapports sociaux, de découvertes, riche de contacts.
Voir ce que ça fait d'avoir beaucoup d'argent.
Ben écoutez, même eux, ils nous disent que c'est pas tout l'argent, voyez. Même eux nous le disent. Non, je crois que.
Je sais pas, vous gagnez au loto, par exemple. C'est pas un rêve. Tout le monde rêve de gagner au loto, non pas vous.
Non. Non, moi je rêve de transformer la société, voilà, vraiment, pour tous, parce que je crois que, y compris vivre riche dans un océan de misère, eh bien c'est pas terrible.
Vous qui êtes professeur d'économie et de gestion, vous devez souffrir au quotidien d'apprendre à vos élèves un système que vous récusez totalement, comment faites-vous avec ça ?
Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas une souffrance. Je fais le programme et en même temps, mais vous savez, vous êtes allé à l'école.
Oui, hein, c'est arrivé.
Voilà, vous êtes allé au collège, vous êtes allé au lycée, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'espace au débat, à la réflexion, à l'esprit critique. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, voilà. Vous savez, les jeunes, ils ont plein d'idées. Hein, ils ont plein d'idées, ils ont des révoltes, ils ont des commentaires à faire sur tout, et tout ça est très vivant. Et moi, ce que j'essaye, c'est effectivement c'est à la fois de donner des connaissances, donner des éléments. Je fais le programme, et en même temps, de développer aussi le recul, l'esprit critique.
Probablement que votre vision du monde touche aussi la façon que chacun a de vivre sa vie. Moment de campagne, le 5 avril dernier devant Sciences Po Paris, rare confidence sur votre vie.
J'ai choisi effectivement, par exemple, l'union libre. Hein, c'est une conviction. Je sais que ça a beaucoup dérouté mes parents et j'ai pas été exemple de pression de la part effectivement de mon environnement, de mon entourage familial, qui s'inquiétait beaucoup quand même de savoir comment j'allais faire dans la vie. Si j'étais pas mariée.
Quelle pression, quelle inquiétude.
Oh ça, vous savez, je crois que c'est des choses qui sont vécues par beaucoup, beaucoup de jeunes filles hein, dans le pays. Beaucoup, des millions en réalité, hein, où effectivement, face à cette société très dure, face au problème de vivre, d'avoir un emploi, un vrai salaire, eh bien, on nous met dans la tête, surtout quand on est une fille, qu'il faut trouver un bon mari et surtout qu'il a un bon emploi et qu'il soit riche. Voilà, c'est.
Et, mais c'est possible d'être marié à une ouvrière
c'est des pressions sociales. Oui, bien sûr que c'est possible. Et en même temps, vous savez, de la même façon que tout un courant de gauche portait hein, des idées progressistes. Sur le mariage, par exemple, sur l'émancipation des femmes, eh bien nous continuons de le faire. Oui, nous sommes pour l'union libre, pour l'indépendance des femmes.
C'est bourgeois le mariage, vous trouvez ?
Oh, je crois que c'est une institution bourgeoise. D'ailleurs, vous savez, beaucoup se marient surtout pour leur impôt, hein, leur feuille d'impôt. Donc, je crois que oui, c'est une institution bourgeoise.
Est-ce que vous téléchargez, Nathalie Arthaud ?
Non.
Jamais, vous n'avez jamais téléchargé.
Non.
Vous respectez la loi alors.
De fait, en tout cas.
Comme tous les candidats, nous avons demandé de venir avec un CD. Surprise, même pas Jean Ferrat. Quoique c'est un peu trop Mélenchon, Jean Ferrat, non ?
Écoutez, j'avais envie de rendre hommage à Césaria Evora, qui est venue à la fête de lutte ouvrière à plusieurs reprises et voilà, que j'aime beaucoup.
Sodade.
Es camino pasando me. Que mostrabes camino longe. Que mostrabes camino longe. Es camino pasando me. Saudade. Saudade. Saudade.
Césaria Evora, le choix musical de Nathalie Arthaud. Vous allez voter pour vous dimanche, même si vous ne voulez plus d'élection. même si vous ne voulez plus d'élections.
Vous vous trompez là-dessus.
Ah.
Je veux plus d'élections.
Bah, vous allez l'expliquer à Patrick Cohen.
Voilà, je veux plus d'élections.
Notre temps
l'élection aussi, vous savez, par exemple, des grands actionnaires de Peugeot, voilà, du conseil d'administration d'ArcelorMittal, voilà.
Sodade, choisi par Nathalie Arthaud, qui passe la matinée sur Inter. C'est à vous, Patrick Cohen.
Merci, Pascal. Ben oui, Nathalie Arthaud, on vous retrouve à 8h20 pour parler de votre programme et de vos idéaux politiques. Et pendant le journal de 8h, pour commenter un reportage auprès de vos militants. 7h59, le temps.
Socialistes et UMP dans le même sac ou presque également pour notre invité ce matin sur Inter, la candidate de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud, bonjour. Vous connaissez le principe, il est le même pour chaque candidat ici. Reportage tout de suite sur vos militants en action. Votre réaction juste après. Reportage en Loise signé Nasser Madji.
C'est une petite salle des fêtes à Villers-Saint-Paul, tout près de Creil, où les militants de Lutte Ouvrière aiment se retrouver chaque année. On y croise des anciens de Chausson ou de Continental qui ont mené des luttes emblématiques à des époques différentes. L'ambiance est familiale. La camarade Nathalie Arthaud va tenir meeting dans la soirée. En attendant, on discute politique. Toujours les mêmes mots, la même rage, les mêmes injustices à dénoncer. Comme beaucoup d'autres, René est une fidèle.
De l'argent, il y en a. Il est fait sur notre dos. Pourquoi cet argent-là, il n'est pas réparti entre tous? Pourquoi il y a une certaine catégorie de la société qui doit vivre bien plus que très bien, qui a du pognon à regorger, qui ne sait même pas quoi en faire? Le système capitaliste, pour moi, il faut l'abattre. Enfin, il faut en terminer avec ça.
Pour certains, Lutte Ouvrière, c'est aussi une famille où on se serre les coudes. Nathalie n'a jamais entendu parler de Trotsky, mais elle se sent bien, dit-elle, parmi les siens.
Entre pauvres, en fait. Entre pauvres. On est tous des pauvres ici, hein. Puisqu'on nous donne rien, on nous fait rien, donc il faut bien qu'on s'aide entre nous. Hein. Combien il y a de malheureux, là, vous pouvez me dire? Combien il y a de riches? On a peur, en fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vote d'un côté ou de l'autre? De toute façon, on sera toujours dans les barres des pauvres. Il faut qu'une personne comme ça, elle nous relève, c'est tout. Mais bon, elle aura du boulot, cette femme, hein, parce qu'il y a du boulot. Hein.
Les soutiens de Nathalie Arthaud regrettent qu'elle soit si bas dans les sondages et que Lutte Ouvrière ne parvienne pas à fédérer. Mais le candidat ici est d'abord un diffuseur d'idées, nous dit-on. Un militant un peu plus mis en avant pour défendre le programme de lutte, et c'est là l'essentiel. Une élection, répète d'ailleurs souvent Nathalie Arthaud, ce n'est qu'un accident politique.
Reportage Nasser Madji, Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, une famille, oui?
Oh, une famille large, très large. Voilà, bah écoutez, c'est sûr que quand on a les mêmes, la même rage, la même révolte, la même envie de changer les choses, on se sent bien des choses en commun, c'est sûr.
Large, ça. Mais vous comptez combien de militants aujourd'hui? 7-8 000,
c'est ça? 8 000, voilà, 8 000 militants.
Ouais. On vous retrouve à 8h20 pour l'instant, à 8h09 sur Inter. Il est 8h20.
Élection présidentielle. Premier tour, J-6. Le prochain président de la République vous répond sur France Inter.
Nathalie Arthaud est donc l'invitée de France Inter jusqu'à 9h. J'ai suivi, Nathalie Arthaud, votre meeting au Zénith hier après-midi, où tout au long de votre discours, vous avez opposé les ouvriers, les travailleurs qui doivent se libérer de leur exploitation à la bourgeoisie, dites-vous, la classe capitaliste qui doit être expropriée. Qu'est-ce que recouvre la bourgeoisie, selon vous? Quel type de métier? À partir de quel revenu?
C'est surtout le pouvoir. Hein, que confèrent la richesse, les capitaux. C'est ce pouvoir qui est concentré dans les conseils d'administration qui vont décider de fermer tel ou tel site, de supprimer des emplois et donc de bouleverser la vie de millions de travailleurs qui, eux, n'ont pas le choix, qui, eux, ne décident de rien, ni évidemment donc de maintenir leur emploi, ni de leur salaire, ni de leur retraite. C'est ce pouvoir-là, ce pouvoir qu'ont certains hommes, parce que oui, ils ont ces capitaux qui, d'ailleurs, ne sont que le concentré du travail accumulé en réalité par des générations et des générations de travailleurs.
Donc c'est ceux qui possèdent le capital,
oui,
pas,
et qui ont un droit de vie ou de mort sur les entreprises qui décident...
Pas les cadres, mais bien sûr que non.
De la même façon qu'on m'a dit, mais attendez, vous êtes contre la personne qui est au guichet des banques. Mais évidemment que non. Je fais bien la différence entre les travailleurs des banques, les employés des banques, et puis les actionnaires des banques qui disent, ben voilà, il faut que la BNP Paribas, elle rapporte du 15, du 18, du 20%.
Ce sont les possédants, c'est ça?
Oui, les possédants de capitaux, et voilà, qui utilisent, vous comprenez, ces capitalistes
possédons de capitaux, eh bien, ce sont les rois des temps modernes. Voilà. C'est eux qui, en réalité, tiennent l'avenir de la société dans leurs mains et qui sont responsables de cet immense gâchis aujourd'hui. Parce qu'on voit ces capitaux qui sont sués quand même, justement, par tout un chacun, par tous les travailleurs qui contribuent à faire tourner la société. Eh bien, on les voit utiliser ces capitaux de façon complètement absurde, aberrante. Alors, c'est des caprices de riches, hein, d'accord, des yachts, des hôtels sous la mer, enfin bon, des caprices de riches, mais c'est aussi la spéculation. Voilà, hein, c'est quotidiennement des milliards qui sont happés par la spéculation et qui finissent par se retourner contre nous tous. Voilà, donc ils nous mènent effectivement complètement dans le mur et il y a urgence à les arrêter.
Alors je reviens sur ce terme de bourgeoisie parce que dans votre discours vous avez dénoncé aussi les partis bourgeois de la gauche à l'extrême droite. Ça veut dire que tous les partis politiques sont bourgeois, y compris le Parti communiste, y compris le Front de gauche.
Eh bien tous les partis qui veulent gouverner dans le cadre de ce système-là, la réalité, c'est qu'ils font les affaires des plus riches. La réalité, c'est qu'ils se mettent à leur service.
Donc ils sont alliés à la bourgeoisie.
Et ils sont pieds et poings liés, d'ailleurs. Vous savez, quand il y a eu les différents gouvernements Mitterrand, que s'est-il passé ? Eh bien, voilà, ils ont fait la politique que justement, ces grands groupes capitalistes leur demandaient. Mitterrand, il a fini en glorifiant la bourse, hein, en expliquant qu'il fallait que ça se développe, qu'il fallait que ça se libéralise, etc. Ouais. etc. Eh bien, voilà, parce que c'est ça. Ceux qui dirigent réellement, ils ont un argument de choc. Hein, c'est que, justement, ils possèdent l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mmh. Et ils pèsent sur tous les gouvernements. Donc, tous ceux qui postulent, effectivement, au gouvernement, eh bien, ils postulent aux affaires de ces gens-là.
Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, et vous êtes arrivée, vous, de faire alliance avec ces partis bourgeois. Vous-même, vous êtes conseillère municipale à Vaux-en-Velin, élue sur une liste de communistes et de militants du Front de gauche.
Bien sûr, du Parti communiste, essentiellement, et du Front de gauche, si vous voulez. Oui, mais parce que, justement, je sais aussi que ce sont des partis qui réunissent bien des travailleurs, qui réunissent, y compris au Parti communiste, il y a bien des militants qui rêvent de transformer complètement la société, je le sais pertinemment.
Mais donc vous êtes dans la majorité municipale d'une mairie dirigée par le Front de gauche ?
Oui, c'est ça, absolument. Mais je fais la part des choses. Je fais tout à fait la part des choses. D'abord, je ne confonds pas la gestion d'une municipalité à la gestion des affaires de Madame Bettencourt, de Michelin ou de Peugeot. Vous savez, la municipalité, c'est bien autre chose. Hein, vous savez, le peu de pouvoir d'un maire, d'ailleurs, hein, qui est celui d'essayer...
Le maire a des pouvoirs sociaux importants, notamment.
Voilà.
Si les mairies peuvent prendre des mesures favorables aux travailleurs, pourquoi un gouvernement ne le pourrait pas ?
Eh bien, justement, d'abord, nous, c'est effectivement ces municipalités qui le font, vous voyez qu'on peut être solidaire avec elles. Et c'est bien, ça a été notre démarche effectivement en 2008 de soutenir les équipes militantes qui essayaient de se battre dans ces municipalités populaires pour effectivement que les plus défavorisés s'en sortent un petit peu mieux et un petit peu le soutien des municipalités. Mais
en 2008, je le précise, vous avez fait au municipal, vous avez fait liste commune dans une soixantaine de municipalités, je crois, dans toute la France avec le PS. Et le PC.
Alors surtout avec le PC
et de temps en temps avec le Parti Socialiste,
là où localement on considérait effectivement qu'ils avaient une politique favorable.
Et donc parfois vous êtes dans ces majorités municipales.
Mais quand le Parti communiste a eu des ministres au gouvernement, eh bien ce qu'on a vu c'est que finalement ils se sont aplatis comme les autres et ils ont avalé toutes les couleuvres. Ouais. Et ils ont y compris privatisé à la SNCF, à Air France. Ils ont fait la politique que leur demandait le capital.
Gouvernements de gauche n'ont jamais pris aucune mesure favorable aux travailleurs.
Mais si, il y en a bien eu. Mais même, vous savez, même la droite, il y a eu des mesures que je peux saluer à droite.
Hein. L'avortement.
Bien sûr, le droit à l'avortement, le droit de vote à 18 ans, Giscard d'Estaing. Donc il y a des mesures que je peux saluer. Mais
donc,
globalement,
les alternances, ça peut servir. Hein.
Vous savez, je suis consciente que, y compris si Hollande revient au pouvoir, il fera peut-être, effectivement, il donnera l'autorisation peut-être aux couples homosexuels de se marier. Hein, il y aura peut-être des avancées sur ce terrain-là, sur le terrain sociétal, avancées que je salue. Mais sur le fond, sur les problèmes vitaux des travailleurs, c'est-à-dire les problèmes de chômage, hein, les problèmes de salaire qui ne permettent pas de vivre, sur les problèmes des petites retraites, rien ne changera. Et ça, c'est quand même notre vie. C'est quand même l'essentiel, c'est ce qui est vital. Et là-dessus, il ne faut pas avoir d'illusions, justement. Et c'est bien ça, le problème. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, il y a un fléau, c'est le problème du chômage. Mais c'est un fléau. C'est un fléau pour les familles de chômeurs, évidemment. Mais c'est un fléau dans les quartiers populaires. Hein, ça devient invivable avec cette misère qui monte. C'est un fléau pour les petits commerçants, les petits artisans. Donc, c'est le problème numéro un.
Et
sur sur ce terrain-là, je suis désolée, mais je sais très bien que le retour de la gauche au gouvernement ne changera rien.
D'accord. Donc, pour vous, si je résume ces questions de stratégie électorale, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, tant que le communisme n'aura pas triomphé, ça ne sert à rien d'aller soutenir des partis de gauche de gouvernement, de conclure des alliances au niveau national, ça ne sert à rien.
Au niveau national, et en ce qui concerne effectivement la gestion donc, de l'État et des affaires de la bourgeoisie, oui, c'est sûr, ça ne change rien. Et ce qu'il faut, c'est au contraire faire une pression, la pression sociale, par en bas, avec la force collective des travailleurs, avec la force de leur nombre, de leur rôle dans la société, c'est effectivement utiliser les moyens qu'on a de peser, que sont les grèves, que sont les manifestations, c'est au travers des luttes que les travailleurs peuvent se faire entendre, mais comme à chaque fois, c'est pas quelque chose de nouveau.
Je voudrais pas introduire un trop grand débat historique ou théorique, mais Trotsky, si vous vous réclamez toujours de lui, Trotsky avait théorisé la stratégie du front unique, c'est-à-dire des actions communes ou des accords électoraux entre militants révolutionnaires et parti réformiste.
Alors, le Front Unique, ce n'est pas le Front Populaire.
Et non, c'est le Front
Unique.
Ce
n'est pas des accords électoraux.
1922.
C'est pas ça. C'est au contraire, effectivement, un combat ensemble. Mais ça, vous savez, nous sommes de tous les combats. Effectivement, on a combattu la contre-réforme de Sarkozy sur les retraites. On se bat pour la régularisation des sans-papiers. On est de tous ces combats-là. Et là-dessus, l'unité ne nous gêne absolument pas. Au contraire, nous, on milite pour qu'on soit le plus nombreux, le plus unis possible. Et en même temps...
soit pas assez présidentiel.
Et en même temps, mais écoutez-moi bien, je parle des combats, je parle des luttes, je parle des grèves et des manifestations.
Les élections
nous sommes
aussi,
pour
c'est un
l'unité.
Combat, non ?
Mais ensuite, quand il y a ce combat commun, je crois qu'il faut qu'il y ait absolument toute la place pour que toutes les politiques soient défendues. Voilà. Vous savez, dans des grèves, il n'y a pas une seule politique qui peut se faire entendre, il n'y a pas une seule opinion. Il faut que toutes les opinions se fassent entendre, que chacun choisisse celle qui leur correspond. Et donc, c'est ça. L'unité dans les luttes ne veut pas dire de s'aligner politiquement derrière une seule et même politique, derrière un seul et même homme. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Et moi, je me battrai jusqu'au bout pour que ce soit au contraire. Hein, pour qu'au contraire, tout le monde puisse faire entendre effectivement ses idées. Moi, vous savez, je suis consciente qu'y compris sur les manifestations des retraites, il y avait effectivement des dirigeants du Parti Socialiste. Il y avait le Parti Socialiste représenté dans ces manifestations-là. Et je savais en même temps qu'ils ne défendaient absolument pas la même politique sur les retraites que nous, Lutte Ouvrière. Nous, Lutte Ouvrière, nous sommes pour le retour à 60 ans, mais avec 37 annuités et demie de cotisation. Parce qu'on ne voit pas pourquoi ce qu'on était capable de réaliser il y a 30 ans, on n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Alors que le progrès s'est accumulé et que la société a avancé. Donc voyez, et là-dessus, c'est évident que le Parti Socialiste, c'est pas ça qu'il met en avant. Hollande nous explique les 60 ans, mais alors ça va être pour une toute petite minorité.
Dernière curiosité, Nathalie Arthaud, avant la revue de presse, qui dirige Lutte Ouvrière aujourd'hui ?
Bon, il n'y a pas de curiosité. Hein. Enfin,
c'est une curiosité de ma part.
Ah, heureusement, remarquez, vous êtes journaliste, c'est quand même votre métier.
D'être curieux,
donc,
oui.
vous auriez pu pousser votre curiosité plus loin.
C'est-à-dire ?
Et lire tout simplement la liste de notre comité centrale que nous publions chaque année et qui donne la liste d'une centaine des dirigeants de Lutte Ouvrière dans laquelle il y a donc cette liste, Arlette Laguiller évidemment, Jean-Pierre Mercier que vous connaissez peut-être, Jean-Louis Gaillard, Nathalie Arthaud et bien d'autres.
Donc
voilà.
Ce sont ceux-là qui dirigent l'organisation aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
De Lutte Ouvrière, oui. Ceux que vous avez ici, que vous venez de citer.
J'en ai cité quatre, mais la liste comporte
une centaine.
Et
il n'y a pas de chef.
Non, il n'y a pas de chef. Vous savez, nous, on est plutôt pour le collectif, vous voyez, pour que et tout ce qu'on fait d'ailleurs est très collectif.
D'accord. Et c'est transparent. Il n'y a plus de dirigeants clandestins comme il y en a eu pendant 40
ans. C'est transparent pour tous ceux qui s'intéressent à
avec
nous.
Martial
voilà.
Et Hardy.
Pour tous ceux qui s'intéressent à nous, qui suivent ce qu'on fait, nos réunions, nos fêtes.
On peut pas suivre.
C'est transparent.
On peut pas tout suivre. Vous faites vos congrès à huis clos toujours.
Oui, c'est la seule chose qu'on fait à huis clos, vous voyez. Alors là, effectivement, mais comme les partis, vous savez, les partis ont toujours des réunions entre eux, nous, il n'y a que celle-là. Alors c'est quand même dommage que vous soyez intéressés que par notre congrès et jamais par toutes les autres occasions de nous rencontrer.
C'est généralement le moment le plus important dans la vie d'un parti.
C'est quand même dommage. Et je tiens tout de même à rappeler à cette antenne, parce que je suis une assidue, vous voyez, une auditrice assidue, que je suis porte-parole nationale de Lutte Ouvrière depuis 2008. Et que c'est la première fois que je suis invitée ici même.
La première fois depuis 2008.
Alors voyez s'il y a un problème d'exposition publique, peut-être que vous en êtes en partie responsable.
Peut-être, mais sur les élections récentes, sur les élections intermédiaires depuis la dernière présidentielle, vous êtes à combien? Vous avez fait 1%, 1,5% des voix sur les élections régionales?
Oui, oui. Mmh. Oui, et alors
non, ben ça, ouais, voilà. Non, cela dit, on vous a entendu et vous n'êtes pas venu dans la matinale. Bruno Duvic me fait nom de la tête, non? Vous êtes venu
7h50 chez Pierre Veil, il y a
oui,
quelques
voilà.
semaines.
Voilà, 7h50, voilà.
Absolument. Et avec Hélène Joie une deuxième fois. 8h32, dans un instant, Nathalie Arthaud revient avec les auditeurs de France Inter. Tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, la campagne au grand air.
Oui. Et vous, Nathalie Arthaud, au Zénith de Paris, toujours selon Libé, qui offre ce matin la couverture la plus complète de ce week-end de meeting. Eh bien, vous étiez à la lutte. Si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force. Que ce soit Hollande ou que ce soit l'autre, il faudra se préparer à se défendre par nous-mêmes. Toute la presse s'intéresse à cette campagne, même Télé 7 jours, qui demande entre autres à chaque candidat quel est le programme télé dont il a la nostalgie. En ce qui vous concerne, c'est donc la Noiraude, si j'ai bien compris.
Alors pour c'est quoi la Noiraude?
Eh bien, voilà, pour ceux qui aurait oublié. Voilà un extrait de ce dessin animé où une vache hypochondriaque appelait tous les 4 matins son vétérinaire un peu là et à la secrétaire acariâtre au téléphone.
Allô ?
Allô ? C'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire.
Ne quittez pas, je vous le parle.
Allô ?
Bonjour docteur. La Noiraude à l'appareil.
Bonjour la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore ?
Docteur. Je voudrais être une biche.
Voilà, la vache qui veut devenir biche, c'est une autre forme de lutte des classes. Hein,
c'était à la télé, ça?
C'était à la télévision, Patrick, enfin.
Complètement zappé. Bon, et ben voilà, le programme préféré de Nathalie Arthaud. Quoi d'autre dans la presse, Bruno?
Un membre du gouvernement accusé d'employer une sans-papiers pour faire le ménage au noir chez lui. Mauvais point pour Pierre Lelouch ce matin dans Libération qui prolonge une enquête diffusée sur Canal+. Il essaye de se défendre en assurant qu'il ne connaissait pas le statut de cette femme. Le journal en doute fortement. La banque UBS soupçonnée d'aider à l'évasion fiscale par la justice française. Une information judiciaire est ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale commis en bande organisée. C'est à lire dans Les Échos.
Merci, c'était la revue de presse de Bruno Duvic sur Inter. La Noiraude, ça a été diffusé en 77 sur TF1 dans L'île aux enfants. Voilà, je le précise pour. Mais Thomas Legrand le savait, mais moi.
Je crois qu'on le trouve en DVD, Patrick.
Je l'ignorais et c'est rediffusé en ce moment sur la chaîne Gulli. Voilà, pour ceux qui veulent tout savoir. Il est 8h39.
Élection présidentielle. Premier tour, J-6. Le prochain président de la République vous répond sur France Inter.
La candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, est notre invitée jusqu'à 9h05, heure à laquelle on aura, comme chaque lundi, le billet de Sophia Aram. Des auditeurs pour vous au téléphone, Nathalie Arthaud. Pascal nous appelle de Limoges. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour,
bonjour
à toute l'équipe de France Inter. Je voulais vous poser une question par rapport au Front de Gauche, qui regroupe, vous le savez, cette organisation, dont les deux fondatrices, le Parti de Gauche et le BCF. Vous avez forcément pris connaissance de son programme. Vous savez qu'il propose un réel changement de société et pas seulement un aménagement. Donc, votre organisation n'a pas voulu rejoindre ce front. Et ma question, si Jean-Luc Mélenchon est présent au second tour, appellerez-vous à voter pour lui et donc à combattre le capitalisme et à placer l'humain d'abord, ce qui ne peut que correspondre à votre idéal ? Merci.
Merci Pascal. Nathalie Arthaud.
Bah écoutez, moi je ne vais pas faire toutes les hypothèses possibles pour les résultats du premier tour. Je m'exprimerai le soir du premier tour.
Un peu facile, ça.
Donc, ah bah écoutez, excusez-moi, mais on ne fait pas de la politique science-fiction. Et moi je tiens effectivement à répondre sur le fond. Hein, sur le fond, effectivement, bah, le Front de Gauche, il mène cette politique. Mais bon, de changement. Mais oui, mais tout le monde parle de changement. Hein, la politique du Front de Gauche, c'est celle qui est bien connue, hein, qui a été menée effectivement par le Parti communiste depuis bien longtemps. C'est une politique d'union de la gauche et de la gauche plurielle. Voilà. Une politique qui toujours consiste à dire eh bien on va peser à gauche sur le Parti socialiste en étant plus radical, en mettant en avant des mesures qui vont un peu plus loin que ce que Hollande propose.
Hier vous avez parlé de radicalisme verbal à propos de Mélenchon.
Oui.
Ça veut dire que vous ne croyez pas dans ses propos ou dans ses promesses ou son programme.
Mais, écoutez, une fois qu'on a enlevé la révolution citoyenne et qu'on a bien compris qu'il s'agissait de se rendre aux urnes, hein, et d'utiliser son bulletin de vote pour faire la révolution. Une fois qu'on a enlevé tous les effets de manche, qu'est-ce qui reste? Il reste une politique de relance de l'économie capitaliste. Voilà, il reste une politique, Jean-Luc Mélenchon le dit, keynésienne. Voilà, il reste cela. Mmh. Bon, bah, écoutez, c'est, moi je vois une ressemblance comme... voilà, une ressemblance. Et c'est la même politique que Georges Marchais avait défendue, hein, défendue avec Mitterrand. J'ai dit oui, la politique de Mélenchon, c'est du Mitterrand réchauffé. Voilà, voilà. Alors, bon, il est dans ce cadre-là. Il pense que dans ce cadre du capitalisme, eh bien, on peut mieux partager les richesses. Nous ne le pensons pas. Voilà, nous pensons que cette économie capitaliste, elle est à renverser. Que c'est une révolution sociale qu'il faut. Pas une révolution citoyenne, une révolution sociale. Aller vers une société débarrassée.
Il y a un côté tout ou rien chez vous.
Eh bien, nous, on a cette... Mais nous, écoutez, moi, je ne crois pas qu'on soit condamné à cette économie capitaliste absurde. Pourquoi ? C'est pas tout ou rien. C'est... Vous pensez que c'est le nec plus ultra ? Que c'est le mieux que l'humanité peut inventer, cette économie capitaliste ? Où, en réalité, on contrôle rien, où on n'organise rien, où on ne maîtrise de rien, où on a des capacités de construire des logements ? Où on ne le fait pas, où on pourrait soigner toute la population, mais la terre entière, on pourrait soigner. On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on doit s'en remettre aux capitalistes et leur demander de bien vouloir investir, de bien vouloir construire, de bien vouloir être les relais de tout cela. Mais moi, je trouve ça, c'est une absurdité, tout cela. Il faut le dépasser, il faut aller de l'avant. Mmh. Donc, c'est pas tout ou rien. C'est ne pas accepter la résignation et d'être soumis à cette économie aveugle et absurde.
Question de Thomas Legrand.
Comment vous expliquez ce paradoxe ? C'est justement au moment où le capitalisme montre ses limites, où il est en crise, où tout le monde le dénonce, que finalement, vous qui le dénoncez le plus fortement depuis plus longtemps, vous avez les scores, en tout cas les promesses de scores les plus faibles par rapport à 2007 ou à 2002. On vous promet des scores beaucoup, beaucoup moins importants. Et
95 et 2002.
Ouais. Alors déjà, 2008. Oui. Déjà, je prends ça comme un hommage, puisque finalement, vous convenez que ce qui se passe et que cette crise du capitalisme...
Je conviens que le capitalisme est remis en cause beaucoup plus qu'avant.
Voilà, oui. nous donne raison d'un certain côté. Voilà, bien sûr. En même temps, vous aurez quand même constaté que tous ceux qui ont expliqué, effectivement, qu'en septembre 2008, hein, au plus fort de la crise, que c'était les banquiers, les financiers, les capitalistes qui étaient responsables de cette catastrophe, qu'aujourd'hui... Non, mais ça, y compris Nicolas Sarkozy l'a dit, qu'aujourd'hui, hein, on ne parle plus de tout cela. Hein, non, hein, aujourd'hui, les responsables, c'est les immigrés, c'est les étrangers, c'est la concurrence internationale. Mais voilà, ce ne sont plus les banquiers, ce ne sont plus les capitalistes. Bah, écoutez, voilà, c'est ce qu'on entend maintenant. Bon, bah, écoute, nous tenons à nos idées, nous tenons à nos convictions. Voilà, on n'est pas des girouettes hein, qui tournons dans le sens du vent. Et quels que soient les sondages, quelles que soient les intentions de vote, on continuera de les défendre.
Question au standard d'Hervé qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour à Madame Artaud.
Bonjour.
Je sais que vous êtes internationaliste et moi-même aussi. Donc je voudrais savoir ce que vous pensez du réchauffement climatique et dans ce cadre du nucléaire.
Merci Hervé. Nathalie Artaud.
Oui, bah écoutez, moi je pense effectivement qu'il faut veiller à assurer l'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète, évidemment. Hein, et oui, je suis internationaliste et puis aussi évidemment écologiste, mais écologiste dans le sens du terme premier. Hein, c'est-à-dire il faut bien sûr préserver la planète, il faut veiller aux générations futures. Mais je crois que tout ça passe par le fait de pouvoir maîtriser encore une fois l'économie, parce que
c'est bien beau... sur le nucléaire.
Alors, sur le nucléaire, moi, je pense que l'urgence, c'est de retirer tous les intérêts privés de cette filière. Il faut qu'on retire tous les intérêts privés. Qu'on ne laisse pas à Areva, qu'on ne laisse pas, y compris à EDF, qui se conduit comme n'importe quelle entreprise privée, hein, où il faut faire des profits, où il faut faire des économies.
Mais continuer ce mode de production énergétique.
Moi, je pense que ce qui est dangereux, au premier chef, c'est effectivement ces entreprises qui, au-delà de produire de l'électricité, veulent produire du profit et qui sont irresponsables parce qu'ils agissent comme les autres entreprises. Regardez comment ils agissent dans le nucléaire. C'est cette cascade de sous-traitance. Hein, alors qu'on sait pertinemment que c'est la meilleure façon de perdre le contrôle du processus de fabrication et de production, hein, de recourir à la sous-traitance, d'externaliser, etc. Eh bien, ils le font.
Donc les capitaux sont plus dangereux que l'atome, là, en l'occurrence.
Oui, exactement. Les capitaux sont plus dangereux que l'atome. Mais vous savez, avec des capitaux, on peut tuer, y compris en vendant des médicaments. Hein, le Mediator, par exemple. Vous voyez, avec les capitaux... Là, moi, je me souviens de cette histoire de la vache folle.
hein, où finalement pour faire des économies, eh bien, on donnait à manger aux vaches de la farine animale, hein, et finalement, eh bien, on mettait en danger la santé des consommateurs. Voilà, je me souviens, quand même, j'ai dans la tête aussi la catastrophe d'AZF, hein, Total, où AZF a cette usine qui a explosé à Toulouse il y a 10 ans. Tout ça, c'est voilà, c'est une conduite irresponsable parce qu'on veut faire des profits, des économies. Donc au niveau de l'écologie, c'est la même chose. Je crois qu'il faut retirer les intérêts privés de cette filière nucléaire et qu'il faudrait reprendre la maîtrise de l'économie de tous ces grands groupes, de Total, et enfin organiser la production pour que non seulement ce soit la satisfaction de l'ensemble de la population qui soit recherchée, mais que ce soit aussi que les critères de préservation de l'environnement soient aussi mis en avant, imposés.
Une question de Bernard Guetta.
Oui, vous enseignez l'économie et je ne vous apprendrai donc rien en vous rappelant que l'élection puis la réélection de Roosevelt aux États-Unis, la victoire électorale des sociodémocrates suédois au début des années 30, la victoire électorale du Front Populaire, on en passe, et des Beyer, ont considérablement changé les choses dans le domaine socio-économique, notamment en amenant à un partage beaucoup plus grand des richesses, insatisfaisant bien sûr encore, mais un partage beaucoup plus grand que ce qui existait auparavant. Et je ne comprends donc pas que vous puissiez dire avec, sur un ton aussi définitif, catégorique, que un, les élections, fondamentalement ça sert pas à grand chose, et deuxièmement que un partage des richesses meilleur, peut-être pas parfait, mais meilleur, serait impossible en système capitaliste ?
Ah, je pense que le partage des richesses meilleur est possible, tout à fait. Je pense que oui.
Dans le système actuel.
Vous savez, il y a pas mal de miettes qui peuvent tomber de la table des plus riches. Hein. Il y a quand même de la marge. Hein.
Les congés payés, j'en passe, et non, les meilleurs, c'était quand même un peu plus qu'une miette.
Oui, mais justement, je tiens à revenir là-dessus. C'est pas les élections du Front Populaire qui ont imposé les congés payés. Je suis désolée, c'est une grève générale.
Vous croyez que cette grève aurait eu tant d'effet sans la victoire du Front Populaire?
Donc je termine. Une grève générale qui a mobilisé l'ensemble des travailleurs.
Ça n'était pas dans le programme du Front Populaire.
Les congés payés n'étaient dans aucun programme électoral.
La cinquième semaine. Les congés payés,
ils ont été imposés par le rapport de force. Et ça n'a sûrement pas été imposé parce que l'économie a eu un sursaut, y compris dans cette période-là. On était dans le creux, dans le profond de la crise. Ça a été imposé, c'est par le rapport de force. Et là, les patrons, ils ont découvert qu'ils pouvaient payer des augmentations de salaire de 10, de 15% et qu'ils pouvaient même payer 2 semaines de congés payés.
Mais aux États-Unis, il y avait un rapport de force. Alors, pour le New Deal de Roosevelt.
Vous savez, je suis désolée, mais aux États-Unis, en 34, 35, 36, 37, c'était la misère sociale.
Oui.
C'était les soupes populaires. Mm-hmm. Et y compris avec Roosevelt. Et je tiens aussi à vous rappeler la suite de l'histoire. C'est que, y compris tous ces gouvernements-là, eh bien, oui, finalement, on a abouti où ? On a abouti à la Seconde Guerre mondiale. Parce que rien n'avait été résolu de cette catastrophe. Bien sûr, cette catastrophe engendrée...
Que la Deuxième Guerre mondiale a été engendrée par le New Deal et Roosevelt.
Ce que je dis, la Seconde Guerre mondiale a été engendrée par la crise du capitalisme.
Par la crise de 1929.
Vous voyez-vous,
ou le traité de Versailles.
Y compris à partir du moment où justement on ne le combat pas, où on ne change pas les bases de la société, eh bien voilà tous les dégâts qui peuvent survenir. Donc, ce n'est pas tout ou rien, vous voyez, c'est la conscience qu'on ne se débarrassera pas des injustices, des inégalités et des catastrophes sociales qui nous pendonnaient si on ne combat pas, si vous voulez, l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est cette société d'exploitation, cette société où une minorité s'arroge le droit de décider pour tout le monde et nous fait courir des catastrophes à répétition.
Puisqu'on est dans les références historiques, votre modèle ou votre idéal, c'est toujours la révolution russe de 1917 ?
Nous sommes complètement solidaires et nous pensons que oui, les révolutionnaires russes ont fait un pas de géant en réussissant à faire cette révolution. D'abord, vous savez que c'est quand même eux qui ont mis fin finalement à la Première Guerre mondiale, hein, cette révolution qui a fait irruption en pleine guerre et qui a finalement mis fin à la guerre. Donc ça, c'était déjà une réalisation fantastique, fantastique. Et puis... oui, mais n'empêche que pendant tout un temps, eh bien, les travailleurs, les paysans russes ont inventé une autre société, ont construit tout autre chose et ont essayé, oui, de mettre en place une société guidée par d'autres choses que le profit, que l'individualisme.
On va pas lancer le débat sur la Russie.
Voilà.
En tout cas, vous êtes plus révolution russe que révolution cubaine.
Ah, ça, c'est certain.
Oui.
C'est certain. Parce que dans la révolution russe, il y a eu des millions de femmes et d'hommes qui ont construit leur propre organe de pouvoir, qui ont agi, qui étaient conscients et qui ont eu le pouvoir eux-mêmes. Voilà. Et qui n'étaient pas un pouvoir, d'une minorité.
Qu'est-ce que vous reprochez au régime cubain aujourd'hui? Il n'est pas assez égalitaire, c'est ça?
Non, mais j'ai bien d'autres choses à reprocher avant à l'impérialisme américain, bon, à l'impérialisme d'accord. que.
Alors, on
ne
va pas lancer
cubain.
Le débat. Les jeunes dans la présidentielle, l'émission d'Éric Valmire chaque samedi matin sur Inter. L'un des participants pose des questions aux candidats. Benjamin Sayag est avec nous. Bonjour, Benjamin.
Bonjour.
Vous avez 24 ans, vous êtes salarié dans l'édition. Vous avez une question pour Nathalie Arthaud.
Bonjour, Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Dans votre programme, quelle est la reconnaissance du travail fourni par le capitaliste? Celui qui crée, qui invente, qui prend les risques financiers dans une entreprise, quand celui-ci doit, selon vous, être dépossédé de tous ses biens, de son pouvoir décisionnel, au seul profit de la force de travail. Des dirigeants comme Bill Gates ou Xavier Niel méritent-ils vraiment le bagne que vous leur promettez, alors même qu'ils nourrissent des millions de travailleurs?
Alors, je leur promets pas le bagne, mais je leur, par contre,
l'expropriation. Oui,
oui bah, les empêcher de nuire, voilà. Mais vous savez, ça les fera pas crever, hein, parce que ils ont quand même amassé un bon matelas.
Et ces gens-là ne créent
tous ces gens-là
pas de richesse. À vos yeux,
ceux qui créent les richesses et qui travaillent au jour le jour, ce sont les salariés, les employés, les ouvriers,
et
les enseignants, les infirmières. Ils travaillent aussi, bien sûr, ils apportent quelque chose.
Donc
mais
ceux
y a
qui
pas,
entreprennent,
y
ceux
y
qui inventent.
Il n'y a pas à opposer les uns ou les autres. Mmh. Moi, ceux que j'oppose, les ingénieurs, les chercheurs, tout ça, ce sont des travailleurs. Moi, je suis enseignante, je me considère travailleuse. Les infirmières, les médecins, etc. Mais ce que je conteste, moi, c'est le droit que s'arroge une minorité parce qu'elle possède des capitaux de tout décider. Quand vous dites qu'ils prennent des risques, eh bien non, ils n'en prennent même plus de risques. Parce que regardez ce qui se passe dans tous les grands groupes industriels et financiers aujourd'hui. Il y a une baisse. Évidemment, il y a une crise économique. Donc il y a une baisse des commandes, il y a une baisse de la production, une baisse d'activité. Eh bien, ces gens-là nous disent il faut renvoyer les travailleurs. On renvoie les intérimaires, on renvoie les CDD, on met les travailleurs dehors. Eh bien, c'est eux qui payent avec leur peau. Hein. C'est eux qui ne peuvent plus payer leurs factures. C'est eux qui sont condamnés à la misère. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ceux-là qui nous disent, eh bien oui, on doit être bien servi, toucher des millions parce qu'on prend des risques, on a des grandes responsabilités. Eh bien moi, je dis bah, qu'ils assument. Quand leur économie, elle ne marche pas, quand il y a des ratés dans leur économie, eh bien c'est à eux d'assumer. Qu'ils trouvent l'argent pour renflouer, mais que les travailleurs qui n'ont fait que leur boulot, hein, dont on ne peut rien leur reprocher, qu'ils conservent leur emploi, leur seul moyen de vivre.
Benjamin, un mot le...
Dans votre démonstration, vous oubliez quand même que les salariés de Free peuvent travailler parce que Xavier Niel a inventé cela. Et donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que M. Niel peut aussi recueillir les fruits de son intelligence, de son travail acharné pour arriver à la situation dans laquelle il est aujourd'hui?
Mais moi, je suis pour
Free
que tout le monde, tout oui. le monde puisse justement vivre de ses compétences, de son travail, de son intelligence. Et que, y compris quand on nous met en avant un Bill Gates ou un Xavier Niel, etc. Mais ils sont le fruit de quoi? Ils sont le fruit de toute la société. C'est pas des... voilà, y compris leur génie inventif ou leur génie commercial. Parce que pour Bill Gates, c'est beaucoup ça aussi. C'est plus un génie commercial d'ailleurs qu'un génie technique.
Nathalie Arthaud, dans votre bouche, on a le sentiment que par nature, les patrons, les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille d'ailleurs, sont cupides et méchants. Voilà, c'est ça.
Bah écoutez, vous caricaturez ce que je dis.
Non, c'est l'impression
je suis désolé
que
pour vous,
c'est l'impression que rend votre discours.
Non, mais moi
c'est pas vrai. Ils sont pas naturellement cupides et méchants.
Non, c'est le système. Mais vous savez, ils sont même sans doute très gentils. Vous savez, tous ces grands patrons qui touchent des millions, je suis sûre quand ils rentrent chez eux, ils caressent leurs chiens. Ils sont très gentils, il n'y a pas de souci. Mais, donc c'est pas une question de bon ou de méchant. C'est une question de système économique où finalement, il y a une sorte de, d'obligation, voilà, d'obligation, hein, de rentabilité, il faut mettre les chiffres sur la table, c'est le profit. Et il y en a que pour ça. Et c'est effectivement, c'est un système qui est aveugle. D'accord. Où finalement, il n'y a la place que pour ça. Et, la société, elle peut crever à côté, hein. Ça ne dérange pas ces gens-là.
Une question rapide de Philippe Lefebvre.
Vous êtes le quatrième candidat qu'on reçoit qui demande l'annulation de la dette française. Comment on fait? Est-ce que c'est sans conséquence pour le petit épargnant, par exemple?
Ah, je ne demande pas l'annulation de la dette française,
non,
moi,
vous
non.
Dites que non. C'est non, la bourgeoisie qui doit rembourser sa dette.
Voilà, moi je dis que, de la même façon que les travailleurs payent leur dette, quand ils sont endettés pour leur voiture, pour leur maison, et vous savez, parfois, il faut s'endetter pour se soigner. Alors, ils payent leur dette, les travailleurs payent leur dette, mais cette dette-là, ce n'est pas à eux de la payer, parce que cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. S'il y a eu 600 milliards de dettes supplémentaires là, sur cette crise, ce sont les banquiers qui en sont les responsables, ce sont les grands groupes industriels, et ce sont eux qui ont eu des cadeaux, hein, en veux-tu, en voilà. Mais écoutez, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une école, il n'y a pas un retraité qui a vu la couleur de cet argent-là. Donc, eux ne sont pas redevables. Cette dette, c'est à la
la bourgeoisie de la payer, qu'ils s'arrangent entre banquiers, entre grands groupes industriels de l'automobile, qu'ils s'arrangent pour payer la dette, mais nous, on n'a pas à accepter aucun sacrifice.
Nathalie Arthaud était l'invitée de France Inter ce matin. Merci beaucoup, mais restez avec nous dans un instant. Le billet de Sophia Ram.
France Inter, le 7-9.
Bonjour Sophia Ram.
Bonjour Patrick, bonjour tous les autres et bonjour Nathalie bonjour. Arthaud. En cette fin de campagne, au moment où les candidats sont au bout du rouleau, épuisés par les déplacements et les meetings à répétition, à l'heure où leurs cordes vocales sont tendues et usées comme les strings de Paris Hilton, je ne peux m'empêcher de repenser que certains indécis pourraient faire comme Sophie Marceau en 2007. Rappelez-vous.
Ça vous arrive souvent, juste avant de voter, de jouer au bonito avec les bulletins de vote? C'est ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, c'est vrai?
Oui, honnêtement, j'étais un petit peu perplexe et je ne savais pas très bien pour qui voter.
Vous avez fini par mélanger les bulletins et vous en avez
voilà,
tiré un.
Voilà, j'ai fait ça. Ok, bon, je sais, c'est un peu violent d'imaginer que l'on puisse choisir son candidat à l'élection présidentielle au bon taux. Vous êtes sûr? Surtout quand on sait le mal que se donnent les candidats. Mais je tenais à vous prévenir, Nathalie Arthaud, ça arrive. C'est pour ça que si au moment de voter, vous entendez chanter dans l'isoloir d'à côté « Plouf, plouf, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud », il ne faudra pas vous inquiéter, c'est juste Sophie Marceau qui choisit son candidat. Quand on pense à tous ces indécis, tous ces gens qui statent, mais là, tu vois, je sais pas, je me tâte. Mais on se demande juste ce qui leur manque encore pour se décider. Ça fait un an qu'on parle que de la campagne. Moi, je veux bien qu'ils aient besoin de temps, mais à ce rythme-là, on va devoir enchaîner direct avec la campagne pour les élections de 2017, 5 ans avant l'échéance. Oui, c'est ça, un peu comme Copé. Enfin bon. Surtout que pour vous, Nathalie Arthaud, porter les couleurs de lutte ouvrière avec l'ombre d'Arlette qui plane au-dessus de vous, ça doit pas être simple. Impossible de monter sur une mobilette sans qu'on vous accuse de plagiat, ni commencer un discours par travailleuse, travailleur sans que la SACD ne vienne vous réclamer des droits d'auteur. On se demande parfois si la coupe de cheveux... Enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bah, remarquez, ça doit pas être facile non plus pour Philippe Poutou, entre Mélenchon et vous, coincé entre la fossile et l'Arthaud.
Ouais, enfin, ah,
voilà, ça
bien.
C'est fait. Bon, allez, plus que 6 jours pour aller voter, faire un choix, l'exprimer et attendre 20 heures précises pour les résultats. Surtout, ne dévoilez pas les tendances ou les résultats avant l'heure sur Internet. Vous encourez une amende de 3700 euros et surtout, il y a un risque pour que l'élection soit invalidée. Et même si le risque reste faible, ce serait sympa qu'on évite d'en reprendre, même pour quelques semaines.
Sophia Aram sur France Inter. On vous retrouve mercredi, Sophia.
Absolument, Patrick,
revenez mercredi. Demain, Nicolas Sarkozy sera notre invité sur France Inter de 8h moins le quart à 9h. Dans quelques minutes, Pascal Clark et ses crocus et chroniqueurs culturels comme chaque lundi. Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est 9h. Les dernières informations, Hélène Roussel. 9...